Bonsoir et bienvenue à l'émission 40 jours et 40 nuits sur les ondes de Radio Victoria au 107.9 FM. 40 jours et 40 nuits, c'est notre façon à nous de prendre une pause pendant le confinement pour aller à la rencontre de francophones en Colombie-Britannique à travers une série d'entrevues animées par moi-même, Julie Gagnon. Ce soir, je vous présente Marie-Hélène Bourret, qui est une habituée de Radio Victoria. Vous l'avez entendue à plusieurs reprises. Elle nous présente son émission Call-in de Bin et on parle avec elle de nutrition, de spiritualité, de création. J'ai très hâte d'aller à sa rencontre ce soir et d'avoir le temps justement de jaser avec Marie-Hélène pendant un petit moment. Alors, on lance ça, on s'en va à sa rencontre. Bonsoir Marie-Hélène, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Et toi, Julie?
Bien, ça va très bien aussi. Je suis tellement contente de te jaser ce soir à l'antenne parce qu'on se croit souvent dans les événements, mais on ne prend jamais le temps d'avoir une bonne conversation, là, tu sais, là, d'une heure ensemble. Et là, c'est l'occasion parfaite.
Je cours tout le temps. Je cours tout le temps d'une place à l'autre.
Bien, c'est vrai que tu es très occupée, hein? Et tu es très active dans la communauté également. Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci, là, durant le confinement?
Bon, écoute, j'avais des grands projets de faire du ménage, de fond en comble. Mm-hmm. C'est remis à la deuxième vague.
OK. Okay? Oui.
C'est remis. C'est... Je me garde de quoi à faire quand ça va revenir. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai une collection de poupées, moi, mm-hmm. puis depuis que je suis toute petite. J'ai mes grands-parents, mes parents, puis moi-même, en voyageant, on achète des poupées. Puis. Là, j'en avais au-dessus de 100 et ça fait des années que c'était dans des boîtes pleines de poussière,
wow.
dans le locker. Et le concierge, le nouveau concierge, le monsieur qui s'occupe du building, il dit « Écoute, on détruit les lockers, j'ai besoin de ce local-là. » OK. Mm. Là, j'ai commencé à regarder mes poupées. Il y en a que j'ai jetées parce que c'était pas récupérable. J'ai réparé des petites choses, j'ai fait dépoussiérer, puis j'ai décidé de comme les vendre. Puis ben là, ça m'a amené à d'autres choses qui étaient dans le locker à vendre. Moi, je suis pas une ramasseuse.
Okay.
Mais moi, je fais du ménage régulièrement. Mais ça, c'était comme c'était quasiment cathartique, tu sais. Je
ouais. dire,
c'est mon enfance. Puis je me rends compte que c'est mon enfance, mais que c'est un peu par procuration, si tu veux. C'est ma grand-mère qui voulait que j'aie une collection de poupées.
OK, oui, c'est ça.
J'ai traîné ça toute ma vie, puis c'était comme, hey, je me débarrasse de ça. Non, celle-là, je veux la garder parce que, tu sais, ça me rappelle ma grand-maman, mm-hmm. de qui j'étais très, très proche et que j'adorais. Écoute, ça doit faire 20 ans qu'elle est morte maintenant, peut-être même plus. Et elle me manque encore. Une femme extraordinaire que j'admire encore beaucoup.
Mm-hmm.
Et c'est ça, tu sais. C'est comme il y a eu comme un ménage, mais pas des murs et des toiles d'araignée comme j'aurais voulu, mais de moi.
Mm-hmm.
Tu sais, il y a eu comme j'ai pris. C'est vraiment spécial comme processus. J'avais jamais. Moi, du stock, comme je dis, c'est du stock, c'est rien des affaires, je m'en débarrasse.
Oui.
Mais ça a été comme une espèce de travail un peu plus en profondeur. Et j'apprécie beaucoup ce temps d'arrêt pour ça. Ça m'a permis oui. de prendre le temps mm-hmm. de le faire.
Oui. Tu sais? De choisir méticuleusement celles que tu gardais, d'avoir une raison derrière, de les explorer, ces raisons-là aussi.
Absolument. Et puis, bon, qu'est-ce que je fais d'autre? Bon, je me suis mis à faire du pain, comme tout le monde.
Ben oui!
Mais moi, vois-tu, parce que je suis paranoïaque un peu des microbes et tout ça,
ouais.
dès le mois de novembre, avant même que le fameux COVID apparaisse, j'ai suivi un peu le développement de la peste pulmonaire qu'il y avait en Chine. Parce que toutes les années, ils ont le retour de la peste en Chine.
Okay.
Il y a trois espèces, si tu veux, dont une qui est pulmonaire. J'ai dit gabin. Gabin, ça va venir ici. Fait que j'ai commencé à acheter de la farine, du riz, tu sais, en plus.
T'as vu ça venir, toi, là?
Ouais, ben moi, je pensais que c'était la piste, mais c'était le COVID. Bon,
ouais.
Je me suis trompée un peu. Je répétais un peu.
La préparation est la même, par contre.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était pas en fou, là. Tu sais, je veux dire, au lieu d'acheter un sac de farine, ben j'en achetais deux.
Mm-hmm.
Tu sais, les trucs comme ça.
Fait que là, t'étais prête à faire ton pain cette semaine.
Ouais. Mais moi, je suis poche avec le pain. OK? Je suis vraiment poche. Je suis pas bonne. Pétrir le pain, pas capable. Je suis pas capable de faire ça. Et il y a une de mes cousines qui a mis sur sa page Facebook, je pense que c'est la recette de sa mère ou de sa grand-mère. Puis ma tante Isabelle, elle faisait du bon pain.
OK.
OK, j'ai rien à perdre, j'ai un 50 litres de farine. Je vais l'essayer. Et ça t'a fait un pain, ma fille, extraordinaire. Moi, j'en mange pas. J'ai fait mon chum. Il a dit, fais-en plus. Je dis, c'est pas bon. Il dit, non, il est bien trop bon. Il a fallu qu'on cache le pain.
Oh mon Dieu, OK. Puis là, c'est comme, quel genre de pain? C'est un pain à sandwich ou c'est un pain avec une grosse
ben,
croûte?
C'est un,
ben...
c'est un pain que tu mets dans une tôte. Donc, c'est pas un pain rond. Là. C'est un pain que tu mets dans une forme à pain et que tu tranches. Tu fais des sandwichs avec. Je veux dire,
oh,
tu
wow.
fais la tranche aussi. Et il dit que ce qui est meilleur, c'est évidemment quand il sort, qu'il est encore un tout petit peu chaud avec à peu près 3 pouces et demi de beurre dessus.
Oui, oui, ça prend 3 pouces et demi de beurre.
Oui. Ben, j'en avais comme 8 livres dans le congélateur.
T'es prête, là.
Oui, c'est ça. Sinon, ben, je fais encore un petit peu de bénévolat pour l'Association historique francophone de Victoria.
Oui.
J'anime les conversations hebdomadaires avec la FRACB. Ça s'appelle Connect Aîné.
Oui,
puis,
quel beau projet ça, hein, Connect Aîné. Si on prend quelques secondes pour en parler, là, c'est cette application où on permet aux aînés de se rencontrer sur Internet de façon sécuritaire et facile. Puis il y a des rencontres animées, c'est ça? Il y a comme des ateliers,
c'est ça.
Etc. Puis c'est très sécuritaire, c'est ça?
Ben oui, c'est ça. Je veux dire, on est sur Zoom. Et puis, comme vois-tu la semaine passée, c'était la spiritualité.
Oh, wow.
Un sujet qui me fascine un peu. On a fait un peu la différence entre la spiritualité et la religion.
Oui.
Qu'est-ce qui amène à un à l'autre? Tout le monde a parlé. On était une poignée. Tout le monde a parlé un peu de son cheminement spirituel. Puis, où ça les amène, qu'est-ce que ça leur donne dans la journée, dans leur vie, tu sais, puis comment ça teinte leur façon d'être. C'est vraiment le fun. Puis cette semaine, c'est un peu plus léger, ça va être sur les années 60.
Ah oui!
Donc, je vais commencer ma préparation demain. Je vais aller chercher un peu sur, bon, évidemment, la Révolution tranquille au Québec, un peu la musique, qu'est-ce qui s'est passé, donc, étant du Québec, chez nous. Mais parce qu'on est des gens qui sont d'ailleurs aussi, je vais aller voir les événements de 68, par exemple, en Europe, en France.
Oui. Oui.
Donc, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Comment ça a changé? Est-ce que vous avez des gens qui sont un peu plus âgés, d'autres un peu plus jeunes? Donc, est-ce que vous vous en souvenez? Donc, je fais ça. Après ça, j'ai fait... J'ai fait un peu d'écriture aussi.
Oui. Est-ce que tu travailles sur un projet d'écriture en ce moment?
C'est un projet qui s'est fait depuis 2002.
OK, oui.
J'ai écouté une vidéo. J'avais un problème de dos et de hanche. Et j'étais allée voir un chaman dans la région de Québec, à l'ancienne de Reta Wendake, donc dans le village Huron. Pardon, Wendat. Et il m'avait dit, tu dois écrire.
OK.
Parce que, je veux dire, la santé pour lui, pour ce chaman, c'était holistique. Là. Donc, c'était l'entité en entier qu'il fallait soigner. C'est que il dit écrit. Écrit. Bon, OK. Fait que ça m'a pris à peu près un an et demi. J'ai écrit un livre.
OK. Oui.
Et ça a quand même, je veux dire, ça a quand même bien marché. Considérant que ça a été publié à frais d'auteur, que je n'ai pas eu de publicité. J'en ai vendu un petit peu plus que 500.
OK, wow!
Sur le marché du Québec. Oui, sur le marché du Québec, pas de publicité. Oui, ça m'en reste encore un peu. Là, que
c'est quoi le livre? C'est sur quoi?
Ça s'appelle L'Envoyé. Et c'est une fiction. C'est une fantaisie.
Okay.
Donc, fiction fantasy un peu. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique.
Oh, wow!
Et tu as 3 niveaux.
Okay.
Okay? Tu as le niveau de la quête elle-même. Donc, c'est une femme dans la quarantaine qui se voit donner une mission par sa divinité, si tu veux. Et elle doit aller chercher une arme ou quelque chose qui va l'aider à combattre les démons au printemps prochain.
OK, oui.
Donc, premier niveau, la quête elle-même, les obstacles et tout ça. Il y a un deuxième niveau qui est plus psychologique. Cette femme-là ayant été victime d'abus, de négligence, etc., dans son enfance, doit maintenant guérir. Et c'est les étapes par lesquelles elle passe pour arriver à une certaine guérison.
Okay.
Ou enfin une certaine paix.
Okay?
Et finalement, il y a le côté spirituel qui était très important pour moi là-dedans, parce que encore là, je pense que la guérison est à tous les niveaux.
Oui.
Et c'est le cheminement spirituel qui amène au pardon, en passant par la compassion, la compréhension d'abord, la compassion, et éventuellement ça amène à brûler ou à annuler, à négativer, je ne sais pas comment le dire, le karma qu'une personne peut avoir avec une autre et qui fait que d'une vie à l'autre, on s'entre-déchire, tout ça. Donc c'est le troisième niveau.
Wow.
Puis, c'est une méchante brique, là, c'est 656 pages écrites tout petit.
Wow!
Oui, c'est énorme, là, je veux dire.
Ben, j'imagine que pour prendre le temps de bien expliquer tous ces niveaux-là, les nuances, etc., ça te prend de la page, ça te prend quelque chose de volumineux, mais quel beau livre que tu as écrit là. Et toi, à la relation à l'écriture, est-ce que c'est cathartique? Parce que je vois qu'il y a vraiment comme des thèmes de spiritualité, de rédemption, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans là, que toi, tu vois comme cathartique dans l'écriture?
Bien, je veux dire, c'est un petit peu... ma relation avec l'écriture est un peu différente.
Okay.
Je sais pas comment je peux le dire. Écrire, pour moi, ça vient facilement.
Oui.
Okay? Donc, je ne veux pas me vanter de ça. Je suis née comme ça. Le monde qui a les yeux et des longs cils... Hein, recourbé, naturellement, pas moi. Bon.
Moi, c'est l'écriture, oui, c'est ça.
Bon, c'est facile. Mes frères, ils ont des beaux cils. Bon. et puis, quand j'ai décidé d'écrire ce livre-là, j'avais le début, j'avais la fin, j'avais absolument rien entre les deux. Je savais aucunement qu'est-ce qui allait arriver.
Ouais.
Et j'ai laissé venir. Et c'est là que j'ai compris de l'intérieur, qu'est-ce que c'était que l'inspiration.
OK, oui.
Pour l'expliquer par la négative, à un moment donné, j'ai dit, oh, ça serait le fun, mais le personnage passerait par là, tu sais, ce serait ça. L'écriture allait bien, je m'assoyais presque tous les soirs, puis j'écrivais, tu sais.
Wow.
C'est que, là, je dis, OK, on s'en va par là. C'était la première fois, peut-être rendu à page 250, que je décidais où les personnages devaient aller. Fait que je les amène par là. Au bout de 50 pages, ça ne bouge plus. Je suis plus capable d'écrire. J'ai été bloquée pendant 6 mois.
Wow! Parce que t'avais décidé de prendre une décision cérébrale là, sur tes personnages, puis t'avais pas laissé aller l'écriture d'elle-même.
C'est ça. J'ai décidé que c'était par là que ça passait. Par là que ça marche. J'ai effacé les 50 pages. L'écriture a repris, puis je me suis rendue jusqu'à la fin.
Wow! Est-ce que tu es de ce type d'écrivaine dont les personnages... Est-ce que les personnages te parlent, toi, quand tu écris? Parce que j'ai souvent lu ça, que les écrivains, les écrivaines, les personnages leur disent où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils vont dans l'écriture.
Oui, ben c'est oui. C'est dans ce sens-là. Et c'est même un petit peu plus loin que ça, dans le sens où c'est comme... OK, là je n'envoyais pas le genre psychiatrique, là. C'est comme s'il y avait une entité qui prenait possession du clavier.
Ouais.
Okay? C'est pas moi qui écris. OK? C'est moi, là. Je veux dire, je capote pas, là. C'est moi qui écris, mais ça a été comme un...
comme une force,
c'est ça, ou un exercice de laisser aller. Je suis très cérébrale. Je analyse tout de A à Z, de haut
Oui.
en bas, de tous les côtés. Et là, ça a été le contraire. C'est que j'ai mis le cérébral à off et j'ai laissé l'imagination aller.
Et là, ça a créé comme tout un roman t'sais, assez complexe. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et en plus, c'était déjà un projet qui venait pas de toi, hein, d'abord.
Ah non, c'est
C'est
ça, c'était
quelqu'un
pas
qui
mon
t'a.
idée.
C'est ça, c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit tu dois écrire. Et là, vraiment, c'est comme. Ça a vraiment été un exercice pour toi de laisser aller parce que dès le départ, c'était pas ton idée.
Alors, moi, je suis très contrôlante. Je suis très contrôlante dans tout ce que je fais. Il faut que les choses soient hein, comme ça. Puis là, pas de contrôle du tout. Oui, ça a été cathartique. En plus que c'est un petit peu mon histoire à moi.
Oui.
Donc, ça a comme permis aussi d'aller décrocher et de comprendre dans le côté. J'avais déjà exploré beaucoup le côté psychologique parce que j'ai été en thérapie pendant des années. Mais pour le côté plus spirituel, parce que moi j'ai besoin de comprendre les choses,
Oui.
et ben c'est comme si les réponses sont venues à moi.
Wow. À
Et
travers cette histoire-là.
à travers mes personnages.
Wow.
T'sais?
Ouais, qui s'est vraiment développé sous tes yeux, sans vraiment un contrôle, de ta
Ouais.
part, là.
Alors, pour en revenir à la question de départ, c'était écrit-tu? Ben, mon projet, c'est de traduire
OK, ouais, en
en
anglais.
anglais. Ouais. Sauf que mes personnages me tombent sur les nerfs.
Ça fait trop longtemps ou sais-tu?
Ben, non, ben, c'est parce que quand t'écris, t'es toujours avec eux.
Ouais.
Je disais, t'es dans l'autobus, ah, oh, regarde, je pourrais écrire ça comme ça. Ça serait une bonne façon de le dire, ça. Ou j'en rêvais. Je rêvais à
Ouais.
mes personnages dans des situations différentes que celles du livre. Là, c'est comme si Abigail Reinhardt venait faire l'épicerie avec moi dans mon rêve, là.
Ils sont partout, sont tout le temps là. Pas moyen de s'en sauver.
Ouais, c'est ça. Puis, quand tu écris, il faut toujours que tu caricatures un peu ton personnage. Il hein? Faut que tu fasses un petit peu plus gros que nature. Je veux dire, tu fais ses défauts un peu plus gros, ses
Ouais.
qualités un peu plus gros pour lui donner un peu de texture, là.
Ouais.
Sinon, bon.
Puis que ce
Puis.
soit apparent pour le lecteur, parce que les choses que toi tu sais du personnage, nécessairement, les gens ne les connaissent peut-être pas.
Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, il me tombe ses nerfs. Puis. Bon, 656 pages. C'est un peu long maintenant avec le recul de 20 ans presque. Je vois bien qu'il y a des choses qui ne sont plus nécessaires à la compréhension,
Ouais.
l'histoire, qui sont en superflu, qui sont redondantes. Et donc, bon, ça aussi, c'est
Mais ça,
comme
c'est ta
mis sur
nature qui aime faire du ménage, là, qui va aller faire du ménage dans l'histoire.
le. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, t'as trouvé quelque chose, là.
Tu peux pas t'en empêcher. Tu veux enlever du stuff. C'est
C'est
ça.
ça, c'est ça.
Marie-Hélène, c'est super intéressant tout ça. Puis ton rapport à la créativité, j'ai envie qu'on en jase un petit peu plus après la pause, mais on va aller faire une première pause musicale avec Dan Bigras, Les Trois Petits Cochons. C'est une chanson que tu as choisie. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi tu l'aimes, cette chanson-là?
Ben, d'abord, j'aime beaucoup Dan Bigras, j'aime beaucoup son sens de l'humour. Et Les Trois Petits Cochons, c'est une de mes histoires préférées en tant que conteuse.
Ah oui!
J'avais raconté Les Trois Petits Cochons. J'étais enceinte de mon fils et j'étais comme au 9e mois, le début du 9e mois, j'allais accoucher là, n'importe quand. Et j'avais raconté cette histoire-là à Toronto. J'étais à Toronto à l'époque avec des écrivains. C'était Canscape, c'est Canadian. Je ne sais plus comment, c'était quoi les lettres, là, mais c'était pour les. C'était une association des gens qui font des illustrations, d'illustrateurs et d'écrivains canadiens. Et ils m'avaient invité pour aller raconter une histoire pour leur temps de Noël. Et c'était cette histoire-là. Et je vais faire une autre histoire avec ça, mais rapidement, il y avait des madames qui étaient assises en avant, des femmes assez âgées, respectables, et au moment où le loup se met à souffler si fort, Moi, je souffle et je souffle si fort. Et madame soufflait avec moi sans s'en rendre compte, elle était captive. C'est une image qui m'est toujours restée. Et quand j'ai
Wow.
entendu cette chanson de Dan Bigra, ça m'a fait rire. Ça
Ouais,
m'a fait rire
ça t'a rappelé
tout.
ça.
Absolument. Alors, on laisse les auditeurs apprécier Dan Bigra et les trois petits cochons.
On lance ça et on revient après la pause.
Trois petits cochons qui s'en allaient. Trois petits cochons de lait. Le premier dit, c'est ici que je fais ma maison. Puis je vais leur faire un carton. Le grand méchant loup qui passait, il était méchant pas à peu près. Il dit, hey mon cochon, regarde bien ta maison. Voilà blanc, voilà noir, voilà blanc à terre. Oh non, maman. Oh non, maman. Oh non, maman. J'ai perdu ma maison. Le petit cochon qui continuait, les deux petits cochons qui restaient. Y'en a un qui dit, moi je fais ma maison là, puis je vais la faire en bois. Le grand méchant loup qui les suivait aimait bien le trou qu'il leur donnait. Il dit, hey mon cochon, regarde bien ta maison. Voilà blanc! Réfléchissait à tout ce qui leur arrivait. Il dit, je vais faire un bloc en béton, puis louer des chambres aux autres cochons. Le grand méchant loup qui s'essoufflait dit 20% pis je te sac la paix. Ce qui prouve en vie que quand t'as du bacon, faut pas le blanc, faut pas le loin, faut pas le brouiller des airs.
Marie-Hélène, on est de retour de la pause. On a écouté les trois petits cochons de Dan Bigra et on imaginait avec toi ces madames soufflées avec le grand loup. Marie-Hélène, avant la pause, on parlait beaucoup de création. C'est comme un thème dans ta vie. Tu écris des livres, tu peins. Il y a beaucoup de, j'ai l'impression, de rapport à la créativité dans ta vie. Est-ce que tu as toujours aimé créer? Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie?
C'est intéressant comme question, ça. Je te dirais que il y a toujours eu un besoin de créer. Okay? Les circonstances, quand j'étais plus petite, rendaient ça plus difficile.
Oui.
Ce qui fait que mon imagination, qui n'appartenait qu'à moi, m'accompagnait tout le temps.
Oui.
Moi, l'école, ça a toujours été un endroit agréable pour moi. J'ai toujours aimé l'école. J'ai été avec les sœurs de la congrégation de Saint-Louis. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelait. C'est une petite école d'un village. Un gros village, mais quand même un village. Et j'aimais l'école parce que ça allait stimuler chez moi ce qui était presque dormant. Et évidemment, on écrivait à l'école. J'ai toujours écrit des petites histoires, on bricolait. Donc, pour moi, l'école, ça a été un endroit extraordinaire. Et rendu au secondaire, quand j'ai été un petit peu plus autonome, j'ai commencé à faire du théâtre.
Ah oui.
Et quand je. La première pièce de théâtre que j'ai faite, c'était Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, avec la troupe de théâtre Les Cabotins. Une troupe qui existe encore, qui avait été fondée quelques années auparavant, là. Et ça existe. Ils ont des succès incroyables. Ils ont reçu des prix, des médailles et tout ça. Donc, on parle de 1973. C'était pas nouveau, nouveau, les belles-sœurs, mais c'était quand même suffisamment nouveau qu'on prenait une chance, okay, de le jouer. Et ça a été un succès immédiat. Et suite à ça, en rentrant au collège, j'ai pris tous les cours de français. Il y avait 8 cours de français qui étaient offerts. Roman, poésie, publicité, littérature, peu importe, je les ai tous pris. Et bon, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Je faisais du théâtre pour enfants. On a fait une pièce de théâtre qui a été publiée d'ailleurs, qui s'appelle Si Cendrillon pouvait mourir. C'était pour l'année de la femme. Et j'avais écrit un texte qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et suite à ça, je veux dire, il y a eu comme une progression. Je donnais des cours d'été en théâtre, des universitaires. Puis je suis allée vivre à Québec, d'abord à Trois-Rivières, après ça à Québec. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont venus me chercher, si on veut. Je suis allée en Saskatchewan. Un ami avec qui j'avais partagé un appartement à Trois-Rivières venait de Saskatoon et lui, c'était parti une troupe de clowns.
Ah oui, ok. Donc, tu as fait du clown
Alors,
aussi.
ouais. Fait que, je suis allée. Pour une fête de clown de ma vie, je suis allée. J'ai appris sur le tas. Ça a été plaisant. On a fait beaucoup de tournées en Saskatchewan avec des écoles, des hôpitaux, des instituts pour les gens avec des handicaps physiques ou mentaux, pour les personnes âgées. C'est super agréable. Et grâce à eux, on est allé à Toronto pour prendre des cours de mime parce que ça nous aidait dans notre clown avec la Paul Gauguin Mime Company. Super intéressant. Et on restait là, je pense, 3 semaines, 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais pas trop. Et moi, un soir que je prenais une marche, je vois 1001 Nights of Storytelling. Alors, je rentre, je paye mon 2 piastres et c'est des conteurs. Et ça a été mon premier contact avec le métier de conteur. Mon grand-père était un conteur phénoménal. Et j'ai dit, oh, OK, je vais aller voir ça. Fait que là, j'ai décidé de rester à Toronto. La troupe est retournée à Saskatoon. Moi, je reste à Toronto. Et là, je me suis mis à raconter des histoires comme ça. Et puis, les gens m'ont commencé à me demander pour y aller. Finalement, j'avais un petit accent français. Ça rendait ça un petit peu plus croustillant.
Absolument, oui.
Mais j'ai fait une conférence, par exemple, avec les psychiatres de l'Ontario, je ne me souviens plus, là. J'ai raconté des histoires, là. J'ai raconté des histoires à Harbourfront, qui recevait beaucoup d'étudiants à ce moment-là. J'ai été dans des festivals. Et bon, boum, je tombe enceinte. C'est que, là, il fallait que je gagne ma vie. Et un petit peu plus, les 5 000 piastres par année, même à ce moment-là, c'était pas beaucoup d'argent. C'était pas beaucoup d'argent. On me payait comme 250 piastres la demi-heure, puis on parle de 1980, là. Mais tu sais, je veux dire, t'as 3 gigs dans un mois. C'est pas suffisant, là. Fait que, bon, j'ai mis ça sur pause pendant plusieurs années. Et j'ai travaillé dans des bureaux au Québec. Ça a été ma mort, presque. Je dis, ça a été dur, ça a été dur, ça a été dur.
Sûrement, ouais, de laisser tout ce pan-là de ta vie qui a été si riche pendant si longtemps, ouais.
Et puis là, à 50 ans, j'ai dit, je prends une année sabbatique. C'était possible parce que j'étais au gouvernement, une année sabbatique. Puis les filles m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je verrai bien. Fait que mon année sabbatique commence le vendredi à 4 heures. Je m'assieds devant l'ordinateur, je dis, OK, perds pas de temps, commence à regarder, qu'est-ce que tu vas faire? Que je vais regarder dans les offres d'emploi. Je vois les visites fantômes de Québec, je cherche un compteur. Ah,
Ben, c'est
j'envoie mon
parfait,
CV.
ouais.
Ben, j'envoie mon CV, elle me rappelle dans les 5 minutes, elle dit, viens me voir demain. J'ai dit OK. Fait que j'ai commencé à nouveau à raconter des histoires. Puis j'ai continué pendant les 5 ans qui m'ont amené jusqu'à la retraite. Donc entre 50 et 55 ans, je faisais quand même ma job de bureau. Puis 2-3 fois par semaine, je sortais pour raconter des histoires.
Wow, ouais. Donc là, tu avais vraiment les deux côtés dans ta vie.
J'avais l'argent qui rentrait.
C'est ça, la sécurité et le plaisir de compter.
C'est ça. Puis là, bon, ben. Après ça, ben, éventuellement, je suis allée ici quelques années plus tard, donc 3 ans après ma retraite.
Mm-hmm.
J'ai été chanceuse. Tout de suite, j'ai trouvé un job à la radio.
Oui.
Je faisais l'émission du matin, 2 heures. Sans préparation, j'entrais à 6h30, à 7h, j'étais en onde, puis je donnais un 2 heures. Puis là, je suis retournée plusieurs fois là, pour faire 1 heure pour remplacer ou je faisais un contrat de 3 mois pour remplacer. Ou, bon, je vais même 1 an à un moment donné sur 1 heure.
Mm-hmm.
Puis là, j'ai fait des petites émissions. J'ai fait mon histoire francophone à Colombie-Britannique, gagné un prix. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Puis là, ben, dernièrement, justement, ça a été 2 projets que j'ai fait durant l'isolation forcée. J'ai fait un projet sur 8 contes de Louis Fréchette que j'ai enregistré. Des contes de peur.
Ah oui, oui.
Un peu de peur de Louis Fréchette. Quand on parle de contes du Québec, on parle beaucoup de démons, de fantômes, de loups-garous.
C'est vrai, ça, oui.
On parle des anciens contes, évidemment.
Oui, la chasse-galerie et tout, là.
Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai fait aussi une série sur la nourriture qui s'appelle Call in the Bin.
Oui, bien, on va en parler un petit peu plus tard de ce projet-là, mais j'ai vraiment hâte qu'on en jase ensemble. Et si on reste un peu dans le thème de ton parcours, etc., est-ce que tu trouves que, ton voyage à travers la francophonie a vraiment servi, justement, à nourrir ces dernières années-là où tu as fait beaucoup de travail avec l'association historique? J'ai l'impression que tu as beaucoup voyagé aussi dans la francophonie. Tu as beaucoup vécu ta francophonie. Et là, récemment, c'est ça, tu t'es beaucoup impliqué avec l'association historique. Est-ce que tu penses que c'est ton parcours qui a nourri, justement, cette implication-là?
Ben oui, dans le sens où j'ai des aptitudes, j'ai des expériences, j'ai des connaissances qui sont un peu différentes de la voie ordinaire.
Mm-hmm.
OK? Pour être capable de donner des visites historiques guidées avec John Adams, il faut discover the past. Eh bien, il faut savoir parler français.
Oui.
Alors, en parlant français, j'ai appris l'histoire de Victoria, entre autres. Ce qui a rendu la chose plus facile d'être capable de travailler pour l'Association historique francophone de Victoria.
Mm-hmm.
C'est comme un amène à l'autre.
Oui, c'est ça. Comme une espèce de roue ou d'effet.
Oui, j'ai fait un contrat avec la Société francophone, par exemple, pour produire un guide en français, pour les sans-abri, pour les gens qui sont en danger de devenir sans-abri, pour ceux qui le sont.
Mm-hmm.
Ben, je crois que le fait que je savais écrire, que j'avais une expérience en écriture, je savais écrire, c'est un petit peu baveux, là, mais que j'avais une expérience en écriture.
T'avais une facilité, oui, c'est ça.
Puis que j'avais déjà travaillé dans un bureau, dans des bureaux, ben ça a peut-être facilité le fait que j'ai pu être engagée de ce côté-là. Je pense que chaque expérience que nous avons en tant qu'être humain, c'est comme en anglais on dit building block, c'est comme une étape ou une marche qui nous amène vers quelque chose d'autre. Et ça, je pense que ça s'applique pas juste à notre monde professionnel, je pense que ça s'applique aussi à notre spiritualité.
Oui.
Chaque expérience doit être, peu importe aussi douloureuse soit-elle, en bout de ligne, elle devrait nous servir à monter une marche.
Oui.
Je sais pas où est-ce que ça nous mène, là. Tu sais, c'est peut-être Stairway to Heaven, j'ai aucune idée. Mais ça devrait être une marche après l'autre, qui nous amène vers une meilleure connaissance de soi, vers une meilleure compréhension du monde ou de notre place dans l'univers, ou juste une amélioration de qui nous sommes comme êtres humains. Alors, si on prend chacune de ces expériences-là et qu'on s'en sert comme tremplin pour aller sur quelque chose d'autre, on accomplit, selon moi, on accomplit ce pourquoi on est ici, c'est-à-dire une amélioration de l'être humain que nous sommes pour en parvenir peut-être éventuellement à l'illumination. Ça prend des vies et des vies et des vies et des vies. Et des expériences, des expériences, des expériences, des expériences. Et la plupart de nos expériences, malheureusement, c'est des expériences qui, dans la réalité, nous bloquent. On n'apprend pas positivement de nos expériences. Je manque de me noyer, j'irai plus nager.
Oui.
Je manque de me noyer, j'apprends de meilleures techniques pour nager. La prochaine fois, je m'assure, je sais pas moi, que je suis pas toute seule dans la piscine, qu'il y a, une bouée de sauvetage. Alors, il y a toujours deux façons de vivre une expérience. Il y a, oh mon Dieu, je suis pas capable de m'en sortir. Et ça peut arriver qu'à un moment donné, moi-même, ayant été une grande dépressive une grande partie de ma vie, il y a des moments où je me dis, oh mon Dieu, j'en peux plus, je suis pas capable de m'en sortir. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je reste? Pourquoi je continue? Ou de dire, écoute, ça va passer.
Oui.
Les autres expériences t'ont permis de voir qu'on s'en sort. Apprends. Recommets pas les mêmes erreurs. Il y a des choses, il y a des trucs dans la vie sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle.
Oui.
Absolument aucun contrôle. On dit, par exemple, un enfant qui est malmené par ses parents, il n'a absolument aucun contrôle là-dessus. On ne peut pas dire il l'a choisi, là.
Non, non.
Karmiquement, on pourrait expliquer ça autrement, là, mais bon, parlons-nous dans le terre-à-terre, presque, là. Mais comment est-ce qu'il fait, lui, pour s'en sortir? Il vient pas me dire qu'il va apprendre de ça, ben oui. Une fois rendu un adulte, il y aura des choix qui lui permettront soit d'apprendre de ça ou de rester enfermé dans ça. Et encore là, ce que je dis, c'est pas évident encore. C'est pas tout le monde qui a la capacité de s'en sortir. C'est pas tout le monde qui a la capacité d'aller chercher de l'aide.
Ouais.
Mais de manière générale, on devrait apprendre de chacune de ces expériences-là. Et c'est ça le karma, hein?
Oui.
C'est des leçons qu'on a à apprendre. Pas, t'as été méchant, t'as une leçon à apprendre. Non, non.
C'est pas une punition. C'est une leçon d'apprentissage. Ouais.
Tu l'as pas appris, tu vas doubler dans cette matière-là. Puis dans la prochaine vie, faudra que t'apprennes.
Oui, toi, t'es vraiment de ce côté-là. Et t'as une vie spirituelle, une vie intérieure très, très riche, j'ai l'impression. Est-ce que pour toi, ça, justement, ça t'aide à choisir ces projets-là, à avancer dans la vie? J'ai l'impression que ça c'est comme un support aussi dans ta vie, cette vie spirituelle-là.
Absolument. Moi, sans spiritualité, je ne serais plus là. C'est mes croyances qui ont fait que j'ai passé par-dessus l'horreur de l'enfance. Je veux dire, m'arrête des séquelles, là. Faut pas, c'est un petit peu dérangé, là. Bon. Mais, je veux dire, je suis quand même une bonne personne.
Ouais.
J'ai combattu et j'ai gagné contre mes démons, contre la plupart de mes démons. Et c'est ce qui me permet, dans les moments les plus sombres, de dire, regarde, parce que reste que ça, là, prends ça sur l'éternité, puis de voir, regarde, tu vas passer à travers. Et ma croyance, c'est un compagnon.
Oui.
Et aussi, j'aime pas le mot béquille, mais jusqu'à un certain point, oui.
Oui.
Dans le sens où, quand tu as les deux jambes cassées, là, ça te les prend les béquilles pour marcher.
Oui.
Puis si tu es capable d'accomplir ce que tu as à accomplir avec tes béquilles, garde-les, tes béquilles. Puis si tu laisses tomber ta béquille, tu vas te recasser le nez. Garde ta béquille. Alors, dans ce sens-là, c'est une aide.
Une tutelle, comme un tuteur pour une plante, pour l'aider à grandir. Ouais.
Absolument.
Ouais.
Absolument. Puis d'ailleurs, je ne sais pas juste moi qui pense ça, là, mais Si tu regardes dans les peuples autochtones partout sur la planète, les peuples indigènes, lorsqu'ils veulent guérir, ils retournent à leur spiritualité.
Oui.
Et c'est un des amis athées ou agnostiques, on dit en Marie-Hélène, c'est juste des croyances, tout ça. Et toi, tu crois qu'il n'y a rien, puis moi, je crois qu'il y a quelque chose. Croyance pour croyance, je préfère la mienne.
Oui, ben. Mais c'est tellement personnel, ouais. C'est tellement personnel que ce qui te sert à toi, nécessairement, ne servira peut-être pas à quelqu'un d'autre. Mais de cultiver une vie comme ça, spirituelle, je pense que c'est assez inspirant de te voir réfléchir, de voir le progrès aussi que tu exprimes. Est-ce que, justement, toi, tu cultives ça au quotidien, cette spiritualité-là? Parce que j'ai l'impression que parfois, on a tendance à se tourner vers la spiritualité quand il n'y a plus rien d'autre, au lieu de la cultiver au quotidien ou de l'avoir près de nous chaque jour.
Ben, premièrement, ma croyance, ma spiritualité est agnostique. C'est-à-dire, je ne crois pas aux églises, je ne crois pas aux structures. Je veux dire, à chacun ce qui lui fait. Là, je veux dire, whatever floats your boat, comme on dit en anglais.
Oui.
mais pour moi, la vie ne peut pas exister sans ça.
Ouais.
Pour moi, le combat pour l'environnement est un combat spirituel.
OK, ouais.
Parce que si on dit le combat pour l'environnement, c'est la survie de l'être humain, ben oui, on n'est rien qu'une des bebites là, qui habite la Terre. Là. Arrêtez de s'énerver le poil des jambes à dire « Ah, l'humanité va mourir! » Ben oui, tant mieux! Bon, tu sais, on est tous égaux là-dedans. Là.
Mm-hmm.
Que ce soit la petite salamande qui vit dans notre mur ici, ou les abeilles, ou on parle beaucoup des abeilles, mais c'est les coccinelles, c'est les clopates, c'est les millepattes, c'est les sauterelles, c'est les fleurs, c'est les lions, c'est les gazelles. Je veux dire, pour moi, là, je parle d'une affaire que je parle pas souvent, parce que pas tout le monde qui est intéressé premièrement. Pour moi, là, si tu regardes au microscope ultra puissant,
oui.
Une abeille, moi,
mais on est tous faits de la même...
La même lumière. Mm-hmm. La même lumière.
OK.
Et c'est là Dieu.
Mm-hmm.
OK?
C'est là, toi, que tu vois que c'est un combat spirituel à la fois pour l'écologie, oui, parce qu'on est tous faits de la même lumière.
Absolument. Mm-hmm. Puis, je veux dire... la vie de l'espèce des éléphants, la survie des éléphants est aussi importante que la survie des humains.
Oui, ben c'est ça. Ben j'allais introduire notre seconde chanson de Gilles Vigneault, La vieille Margot, parce que je trouve que ça s'insère bien dans notre discussion. Est-ce que c'est pour ça que tu l'avais choisi aussi?
Oui.
Ouais.
Oui, faut arrêter pisser dans l'eau. C'est vraiment cette chanson-là, parce que quand moi je pisse dans l'eau, là, la personne qui est en bas de la rivière, là, qu'est-ce qu'elle boit?
Ouais.
Alors, ça s'inscrit là-dedans. On va le laisser jouer.
Oui, alors on écoute Gilles Vigneault, La vieille Margot.
Oui.
Oh, c'est vrai que je m'appelle Margot, c'est pas 40 en mode zéro. Ma mère m'envoie guérir de l'eau dans le puits que je lis, j'ai le petit coteau. Vas-y! C'est en regardant le petit oiseau qui est venu se poser sur un poteau que je me suis retrouvé sur le dos. Mon nom des morts, puis de l'autre mon cieux. Oh! Mon nom des morts, puis de l'autre mon cieux. Je vois Tipo venir le grand polo dans son borlo. Petit train, petit trou, arrête son cheval, ramasse mon cieux. Poli! Là qui me regarde de bas en haut, un œil en bas, puis d'autre pas haut. Venez vous chauffer dans mon borlo, puis bleu son cheval qui prend le galop. Oh oh oh! Le dans son cheval qui prend le galop, le temps de retrouver les cordeaux. On était sur le chemin d'en haut, parti pour le tour du hameau, le bandit. Il avait plus de mains que de mots, le temps de retrouver mon manteau. On avait fait 5000 de trop, il m'avait fait une trolley de flot. Qu'est-ce que c'est? fête, un trolley de flou, moitié jumeau. Puis ma plus belle s'appelle Mado, c'est elle que j'envoie chercher de l'eau. Oh, puis j'ai pas attendu les journaux pour lui expliquer le recto verso. Puis par 40 en bas de zéro, elle a pas peur des petits oiseaux. Je vous dis, j'y ai dit, si tu veux que le pays soit beau, prends les recettes de la mère Margot. Plus de légumes, puis moins de gâteaux. Plus de travail, puis moins de loto, maudit. Plus de logements, puis moins de châteaux. Plus de voilures, puis moins de drapeaux. Plus de baissés, puis moins d'auto. Puis arrêtez de pisser dans l'eau aussi. Faut arrêter de pisser dans l'eau. Cesser de se prendre pour sa photo. Avoir sa peau pour toxer d'eau. Puis mettre son cheval devant le morlot. Bien oui. Pas avoir peur d'un petit oiseau, ni d'un 40 en bas de zéro. Puis comme disait mon grand Polo, savoir se retrouver sur le dos.
Alors Marie-Hélène, on est de retour de la pause musicale avec La vieille Margot de Gilles Vigneault. Quelle belle chanson. Merci beaucoup pour cette deuxième magnifique chanson. Et Marie-Hélène, en terminant, pour la dernière partie de notre entrevue, j'avais envie qu'on jase, parce qu'on a parlé beaucoup de spiritualité, on a parlé de ton parcours. Mais là, tout récemment, tu as ce nouveau projet qui s'appelle Call In de Bin, qui est cette nouvelle émission sur les ondes de Radio Victoria. Et j'avais envie que tu nous parles un peu de la genèse de ce projet-là.
Ben moi j'ai été introduite au végétarisme des années, et durant ma vie j'ai été très flexitarienne. Par moment j'étais végane, j'ai été végétarienne, je suis revenue à la viande, là je tente les deux parce que j'ai des problèmes avec mon intestin, et sur ce petit pain, tu sais, je vais acheter mon chum c'était mangeur de viande invétéré, et j'allais acheter de la viande, mais j'ai dit, Caroline, premièrement, ça pue. Moi, quand je rentre dans un magasin, la section boucherie, je le regarde très aiguisé et je sens le sang. Donc, déjà, lève le cœur.
C'est ce que beaucoup de végétariens et véganes disent, que l'odeur de la viande, c'est une des affaires qui devient le plus.
Oui, parce que quand tu arrêtes d'en manger un bout de temps, là, puis tu recommences, ça goûte le moisi.
Oh, wow!
Oui, ben, c'est que la viande, comme la viande de bœuf, il faut qu'elle soit vieillie. Pour qu'elle soit mangeable, parce que le muscle est trop dur, hein?
Oui.
Donc on le laisse vieillir. Ça veut dire quoi, laisser vieillir de la viande? Une fois que le bœuf est tué, là, une seule manière que tu vas le laisser vieillir, c'est que tu laisses la viande pendant un bout de temps tout seul, là. Puis le muscle pourrit un peu. Hein, je veux dire, c'est aussi écœurant que ça. Bon. Je regarde le paquet de viande hachée cheap, 15 pièces. Je dis, wow. Non. Ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, je regardais, il y avait des gens, une maman avec un petit garçon, puis elle regardait le paquet de viande, puis elle ne l'a pas pris. Puis je me suis dit, non, il y a des alternatives à ça qui coûtent moins cher. Alors, au début, c'était comment se faire un garde-manger, premièrement en temps de pandémie. Ça nous prend aussi un kit de survie ici à cause des tremblements de terre, tout ça. Bon, je veux dire, on a besoin de nourriture qui ne se gâte pas. C'est quoi qui ne se gâte pas? C'est les semences, c'est les graines, c'est les fèves. OK. Caroline de Mille Survie, c'est un bon choix d'émission pour ça. Et, bon, donc le coût, le fait que ça se conserve longtemps. Et puis, ben, puisque c'était une émission de combien de temps? Une demi-heure, je ne me souviens même plus. J'avais donc une durée là, à respecter. Je me suis dit, ben là, ça me prend quelque chose qui va remplir mon heure. Juste une recette, puis c'est quoi qu'il y a dans les pois chiches, c'est pas assez. Je me suis dit, mais je vais parler un petit peu aussi du côté environnement. Du côté planétaire. Qu'est-ce que ça nous fait de manger de la viande? Pourquoi est-ce qu'on devrait se laquer là-dessus un peu? Alors, c'est un peu ça. Puis j'ai été surprise parce que je suis allée voir sur SoundCloud. Je pense que la deuxième journée, il y avait déjà comme 45 vues.
Wow! Oui, il y a un engouement hein, pour ça.
Ça a été un projet super le fun. Puis je pense peut-être rajouter une émission sur le boîte à lunch, puis une émission sur les conserves, la conservation. Donc, conserve en pot, la déshydratation, puis l'eau d'affaires. Là.
Oui, ben ça serait super intéressant parce que c'est drôle. Les gens ont constamment dit aux végétariens, ben là, il n'y a pas moyen d'avoir nos protéines et tout ça. Puis là, une pandémie arrive, puis tout le monde achète des bins. T'sais. Là, les végétariens sont comme, ah, ben, coudonc. Ça a l'air qu'on ne pouvait pas avoir nos protéines, mais là, c'est tard qu'on est pris en pandémie. Là, vous en voulez des bins? Mais c'est vrai que les fèves, c'est tellement pas cher. J'ai acheté des sacs de lentilles à 99 sous. Et c'est rempli de bons nutriments, de protéines, etc. Donc, c'est super soutenant, les lentilles. C'est super savoureux, en plus. Et ça coûte absolument rien.
Ça coûte rien. Je veux dire, une poignée de noix, les gens vont dire, ah oui, il faut que je mange, ça va me coûter cher. Hey, une poignée de noix, là, t'as 9 noix, je pense, 9 amandes ou 10 amandes, c'est les protéines dont tu as besoin pour un repas.
Oui, c'est ça.
Besoin. Puis le problème, c'est qu'on ne sait pas cuisiner végétarien.
Non, ça goûte, souvent ça goûte à rien parce qu'on ne sait pas.
Mais là, je te parle de notre culture, là, OK? Parce que dans tous les autres pays, ils mangent végétarien, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Europe, dans le sud de l'Europe, que ce soit dans le sous-continent indien, les gens mangent végétarien en Chine, au Japon, je dis.
Oui. C'est très savoureux quand ils le font, mais nous, étrangement, on a de la difficulté avec ça. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on manque d'épices aussi dans nos... Tu sais, notre nourriture est très ancrée dans le gras, la patate, la coupe de bœuf. Il n'y a plus d'épices.
Je pense que on a été longtemps un continent en voie de développement. On était en dehors des routes de transport des épices.
Oui.
Et les gens qui sont venus ici, c'était majoritairement pour la colonisation, on parle de 1600 quelque chose, là, majoritairement des Européens pauvres et qui n'avaient pas d'épices avec eux. Donc, je pense que ça a été ça. Et on n'a pas appris non plus des indigènes qui vivaient ici, qui eux autres épicaient avec des herbes. Donc, ils utilisaient des herbes, ils utilisaient des plantes pour aromatiser leur nourriture. On n'a pas voulu apprendre d'eux. Donc, on se ramasse avec des patates, puis des fèves au lard et du bacon.
Et là, finalement, on se réveille et on veut apprendre, on veut développer cette cuisine-là. Ben, écoute, on invite les gens à aller écouter Colleen Debine sur SoundCloud et les épisodes sont tous disponibles sur le site de radiovictoria.ca. Si on se rend là, on va avoir accès à ton émission et le lien SoundCloud. On invite les gens à aller découvrir tes recettes, mais aussi toute l'information que tu nous donnes sur, justement, le végétarisme, mais aussi l'écologie en lien. Et on va clore l'émission d'aujourd'hui. J'ai adoré te jaser ce soir, Marie-Hélène.
Je te l'avais dit. Pose-moi une question, puis je vais en parler pendant une heure.
J'ai quasiment pas eu besoin de jaser ce soir. C'est génial. J'adore toujours te jaser, Marie-Hélène. C'est toujours un plaisir. Et on va aller en musique. On va terminer ça en musique avec Fred Pellerin, Mille après mille. Je pense que ça fait une belle boucle. Ça clôt bien notre émission parce qu'on a parlé beaucoup de contes et de l'importance du conte dans ta vie. On sait que Fred Pellerin, c'est un très grand conteur. Et donc, on s'en va avec sa dernière chanson, Mille après mille. Merci beaucoup, Marie-Hélène.
C'est moi qui te remercie. Au revoir.
Bye-bye.
Ma vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Puis je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis vis jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Puis je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Ben mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. J'aurais trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment, je pourrais m'arrêter. Ben mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer.